France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Ce matin, j'accueille Perrette Souplex, comédienne haute en couleur qui a grandi parmi les meilleurs chansonniers de Paris, à commencer par son père, Raymond Souplex. Perrette a bien voulu me retrouver à ce micro pour évoquer ses souvenirs de Bourvil, Luis Mariano ou encore Pierre Doris, sans oublier les filles à papa. Rendez-vous dans une dizaine de minutes. En fin d'émission, Philippe Cathé vous livrera tous les secrets musicaux de Bollywood. Mais pour commencer, préparez les pique-niques. Aujourd'hui, nous allons voir les petites fleurs à Robinson. Les jolies petites campagnes de la banlieue parisienne, messager les chantait déjà à la fin du 19e siècle. Là, c'était Romainville. Et puis ici, en 1937, c'est Robinson, donc dans cette opérette intitulée La Belle Saison, avec, vous l'avez reconnu, la voix de Lucienne Boyer sur une musique de Jean Delettre, qui était un peu son compositeur attitré.
Thank you.
reste dans le ton printanier, même estival avec les enfants du Tyrol. Joué par Rudi Knabel et son sextet Edelweiss, c'est tiré d'un disque Telefunken de 1959. Si je vous le signale, c'est parce que ce disque a été rassemblé avec beaucoup d'autres dans un excellent coffret pour tous ceux qui aiment ces musiques de genre, ces musiques de divertissement, pour tous ceux qui vivent comme moi dans le souvenir de notre cher et regretté Pierre-Marcel Onder. Eh bien, Pierre-Marcel, justement, dans les années 50, avait réalisé toute une série de disques intitulés donc Florilège de musique de genre et de fantaisie. Ils ont été rassemblés dans ce coffret de 5 CD chez Marianne Melody. Voilà de la musique colorée, il y en a pour tous les goûts. Et puis en ce moment, chaque semaine, je vous fais découvrir une de ces grandes œuvres de Broadway qu'on appelle aujourd'hui les comédies musicales, mais qui ont connu des versions françaises bien avant la guerre. Aujourd'hui d'ailleurs, on ne donne plus de versions françaises, on ne donne que des versions originales en anglais. C'est dommage parce que les versions françaises sont très bonnes. On a évoqué déjà Nono Nanette, Annie du Far West et aujourd'hui Rosemary qui a été un immense succès au théâtre Mogador à la fin des années 20. Après d'ailleurs le succès de Nono Nanette, eh bien les responsables du théâtre avaient décidé de continuer dans le style américain. Ils ont choisi cette œuvre qui avait été créée à New York en 1924 sur une musique de Rudolf Friml, compositeur venu de République tchèque, élève de Dvorak, mais devenu un des grands faiseurs de la comédie musicale américaine. Alors là, c'est pas le style swing de Gershwin, c'est plutôt le style un peu viennois qu'on trouve dans certaines grandes productions américaines. Et donc reprise en France à partir de 1927 à Mogador, 1577 représentations jusqu'à la guerre, un immense succès, Rosemary. Dans la version française, paroles de Ferréol et Saint-Granier, on écoute l'air le plus célèbre, chanté ici par Willy Clément.
De toutes les fleurs aux fraîches couleurs, c'est bien elle la plus jolie. Oui, Rosemarie semble à nos yeux une rose au parfum merveilleux. Et par ce charme adorable exquis, chacun se sent aussitôt conquis. Ô ma rose Marie, les fleurs de la prairie se penchent devant toi lorsque tu passes, comme pour s'incliner devant ta grâce. L'oiseau qui se balance vient pour toi chanter sa romance. Ici le bois prend un air de féerie, c'est pour toi, Rosemarie. Oui, par sa douceur, elle a pris mon cœur, l'amour se tient dans son sillage, et sa douce image que je revois paraît à chaque instant devant moi. Le lac bleu se reflète dans ses yeux, le soleil se blait en ses cheveux. Ô ma rose Marie, les fleurs de la prairie se penchent devant toi lorsque tu passes, comme pour s'incliner devant ta grâce. L'oiseau qui se balance vient pour toi chanter sa romance. Ici le bois prend un air de féerie, c'est pour toi, Rosemarie. Ici le bois prend un air de féerie, c'est pour toi, Rosemarie.
Rosemary, un des plus grands succès de l'entre-deux-guerres, une opérette américaine, comme on disait à l'époque, créée par Robert Burnier, reprise notamment par André Bauger et chantée ici par Willy Clément dans une merveilleuse interprétation dont il avait le secret. L'opérette, on va peut-être en reparler dans un instant avec mon invité parce que je sais qu'elle aime beaucoup ça, Perrette Souplex. J'adore les mélanges de piano et d'accordéon, c'est pas si fréquent que ça. Là, c'était Tony Murena au début de l'année 1940 dans Swing Accordéon. Tout ça pour vous rappeler qu'il vient de paraître un très beau coffret consacré à Tony Murena et justement au style de l'accordéon swing, un coffret qui vient de paraître chez Frémaux et Associés.
Benoît Dutertre, Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Mais sans plus tarder, on retrouve évidemment mon invitée. Elle a joué dans tous les théâtres de Paris et aussi beaucoup au cinéma, depuis Andalousie avec Luis Mariano dans les années 50, jusque tout récemment avec des films du jeune Xavier Dolan. Et puis elle aime aussi la chanson avec son groupe Les Filles à Papa et même en solo. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin. Elle était déjà venue nous raconter son histoire. Aujourd'hui, elle revient nous raconter quelques souvenirs. Aujourd'hui, donc, Perrette Souplex.
Jean l'autre soir, montant son escalier,
Jean l'autre soir, montant son escalier,
trouva sa femme étendue sur le palier,
trouva sa femme étendue sur le palier.
Portier,
ouais, qu'il y a.
Ma femme est morte. Montez, montez vite pour me la chercher, autrement je la fous derrière la porte. Car c'était elle qui faisait le tapage à la maison. Maintenant, la poison, elle est morte. Elle ne mettra plus de l'eau dedans mon verre. Car maintenant, la poison, elle est morte. Et puis s'en va trouver le fossoyeur.
Et puis s'en va trouver le fossoyeur. le fossoyeur.
Fossoyeur.
Qu'est-ce qu'il y a?
Ma femme est morte. Faites vite un trou si grand et si profond que jamais la garce n'en sorte. Car c'était elle qui faisait le tapage à la maison. Maintenant, la poisson, elle est morte. Et elle ne mettra plus de l'eau dedans mon verre. Car maintenant, la poisson, elle est morte.
Bonjour Perrette Souplex.
Bonjour.
Voilà, ça c'est l'époque où vous aviez décidé de devenir chanteuse.
Bah oui, il faut faire un peu tout. Mais à cette époque-là, ça étonnait parce que
c'était à la fin des années 70.
Oui, hein, mais voilà. On était très compartimentés. Oui. Je veux dire, un comédien ne devait pas chanter. Maintenant, il faut tout faire comme les Américains.
Et vous avez fait ce disque avec Jos Baselli, hein,
oui.
Qui vous accompagne.
Oui.
Dans des tas de chansons du répertoire que vous avez choisi, j'imagine.
Oui, bien sûr.
Et j'ai pris celle-ci pour commencer parce que ça, c'était une chanson du répertoire de Marcel Bordas,
oui.
Qu'on a bien oublié aujourd'hui.
Oui.
Je crois que vous l'avez connue.
Oui, je l'ai connue. Oh, bah, c'était pas une amie d'enfance. Mais...
ah, ben non, elle était nettement plus âgée que vous. On disait que c'était la femme qui avait la plus belle voix d'homme.
Oui, elle avait une voix sublime. Elle était grande, elle était forte, elle était.
Une fantaisiste.
Et elle chantait juste, oui.
Bien
sûr. Ah, c'était une voix puissante.
Hein. Voilà. Vous l'aviez rencontrée comment?
Avec mon père, mais je ne sais plus à quelle occasion, dans des cocktails, dans des trucs comme ça. Puis après, j'avais été la voir chanter plusieurs fois. Et elle me fascinait beaucoup, cette femme-là.
Voilà, Marcel Bordas, qui est morte en 1968. Alors, vous aviez décidé, donc, dans ce disque avec Jos Baselli, de reprendre des chansons. Il y a aussi des chansons de Fréhel. Et je me suis d'ailleurs laissé dire aussi par un de mes amis, qui est un de vos admirateurs, que vous aviez aussi chanté le rôle de Fréhel.
Oui, j'ai chanté Fréhel, la vie de Fréhel, la fin de sa vie.
Oui.
Parce que, de toute façon, je l'ai fait il y a quand même 15 ans.
Donc, vous viviez encore au Canada?
Oui. J'étais pas gamine. Donc, c'est la fin de Fréhel quand elle était dans sa chambre de bonne, etc. On a mis quand même un piano parce qu'il fallait bien faire quelque chose.
Oui. Et vous chantiez un peu?
Ah bah oui, je chantais une douzaine de chansons.
Vous aimez chanter?
Oui, j'adore.
Vous adorez?
Oui.
Voilà. C'est pour ça qu'on est content d'avoir quelques disques de vous. D'ailleurs, on va découvrir des petits trésors aujourd'hui. Mais en tout cas, je voudrais aussi rappeler, oui, que vous étiez venu en 2012. On avait fait une émission avec vous et je me suis dit, vous avez connu tellement de monde, vous en parlez tellement bien que ce serait dommage.
Oui, à mon âge, on en connaît pas mal quand même.
Ce serait dommage de ne pas refaire ensemble. Comme ça, très librement, un petit tour d'horizon de quelques personnages
plaisir.
De votre vie. Et comment ne pas commencer par Raymond Souplex?
Ah bah oui, forcément, c'est celui que j'ai connu en premier quand même.
C'est vrai, hein. On dit que vous lui ressemblez. Et que
non, je dis souvent, je ne sais pas si je suis de ma mère, mais de mon père, je suis sûr.
On se plaint que les chansonniers se plaisent à dire des rosseries sur tout le monde, pourquoi le nier, quelle déplorable manie. Oh, si je veux dorénavant être gentil comme un amour, dire toujours du bien des gens et les louanger sans détour. Je veux de leur vie en vérité, ne voir que le côté superbe. Voici mon luth pour les chanter, et puis voici des fleurs en gerbe. Voici des fleurs, qui donc en veut? Voici des bouquets à la ronde. Voici des fleurs pour chacun d'eux. Il y en a pour tout le monde. Voici des fleurs pour toi, Coty, pour toi qui les mets en bouteille. Du peuple, tu es vraiment l'ami, et devant toi l'on s'émerveille. Tu fis tant de choses pour nous, tu nous en promis plus encore. Tu fis un journal à 3 sous, et c'est pour cela qu'on t'adore. Tu peux être fier comme tout, tu peux te rire des brimades, car tu nous donnes pour 3 sous au moins 20 francs de rigolade. Voici des fleurs en tas pour la plus illustre vedette. Vedette que tant on éreinta, j'ai nommé notre Miss Tinguette. Oui, Miss, je veux te célébrer, tu fais des choses ébouriffantes. Tu ne sais ni chanter ni danser, pourtant tu danses et tu chantes. Quand en scène nous te voyons, tu nous dérides, c'est une merveille. Tu nous dérides, si nous pouvions seulement te rendre l'appareil. Voici des fleurs, qui donc en veut? Voici des bouquets à la ronde. Voici des fleurs pour chacun d'eux. Il y en a pour tout le monde. Voici les fleurs pour toi, Herriot. On s'est foutu de toi, quel sale clique. Moi, je te trouve bien en chair, t'es beau. Puis surtout, t'es photogénique. Au ciné, on te voit trop rarement, mais quand on t'y voit, ça nous repose. À toi seul, tu bouges tout l'écran, et ça déjà, c'est quelque chose. C'est en grande tenue que j'aime te voir. T'as un amour de requinpette, un pantalon vis de pressoir. Ça te va quand même bien, la toilette. Voici des fleurs qui n'ont qu'en vœu, de douces fleurs toutes joyeuses, pour les jeunes et pour les vieux, voici quelques fleurs merveilleuses. Abrassées, je les ai cueillies au beau jardin des gentillesses, et pour vous je les ai servies dans leur fraîcheur et leur jeunesse. Et si j'ai dans ma distribution oublié quelques gens de choix, et qu'ils daignent m'accorder leur pardon, ce sera pour une autre fois. Voici des fleurs qui donc en veut, voici des bouquets à la ronde, voici des fleurs pour chacun d'eux, il y en a pour tout le monde.
Raymond Souplex, dans son art de chansonnier, là c'est en 1934, jolie voix, hein, ce Perrette Souplex.
Oui, oui, père, il hein. avait une très belle voix, il a chanté l'opéra de Katsou quand même.
Il a chanté l'opéra de Katsou.
Avec, oui, avec Françoise Roset.
Et là, il est accompagné par Gaston Claret qui était son pianiste en fait.
Son pianiste, hein. Il y avait deux pianistes, il y avait Georges Baptiste aussi.
Voilà, oui. C'est en 1934, alors c'est l'époque où il est donc pleinement chansonnier. Et, quand vous êtes né d'ailleurs, donc au début des années 30, il n'était pas encore tellement célèbre, Raymond
Non,
Souplex.
Mais parce que mon père était un prudent.
Ah oui.
D'abord, il avait un père qui lui avait dit « Si tu veux faire ce métier-là, tu changes de nom », ce qu'il a fait. Il a retourné le nom de jeune fille de sa mère qui s'appelait Pélou pour faire Souplex. Et il était le plus jeune principal clerc d'huissier chez un huissier qui s'appelait Frédéric Champ de Boutechou de Chavannes.
Ah oui, c'est pas mal.
Et il a fait les deux métiers. Il passait à la vache enragée et la journée, il était clerc d'huissier. Et un jour, la chambre des huissiers l'a fait venir en disant « Monsieur, il faut choisir. Vous pouvez pas faire rire des gens le soir et aller les saisir le lendemain matin. C'est pas possible. Il faut prendre une décision. » Alors, il a pris la décision d'abandonner
et de devenir donc chansonnier.
Et devenir que chansonnier.
Mais c'était vraiment sa vocation. Il aimait chanter, raconter des histoires, parler de l'actualité.
Il aimait chanter. Il aimait écrire aussi beaucoup des textes. Il avait fait l'étrange rêve de Monsieur Belette qui a duré pendant toute la guerre et un peu encore après. Et il a écrit beaucoup de deuxième partie du Théâtre des Deux Ânes.
Et donc, Raymond Souplex, donc chansonnier dans les années 30, vous avez grandi donc, auprès de ce père dans le quartier Montmartre où vous vivez toujours.
Oui, mon père a poussé la porte en 36, une porte qui était bien malade. Il a vu un lilas au bout du jardin et il a dit « j'achète ».
Voilà.
Parce qu'il y avait un lilas.
C'était juste derrière le Moulin Rouge. Hein.
C'était les anciens jardins du Moulin Rouge. Il y a encore les petits becs de gaz de l'époque de Lautrec dans le jardin. Il y avait 6 platanes sycomores, un marronnier, un tilleul, une petite vigne. Papa s'obstinait tous les ans à faire une bouteille de vin qui était dégueulasse d'ailleurs, comme le vin de Montmartre qui n'est pas génial. Et il a été très heureux, on l'a gardé jusqu'à...
Vous avez grandi en pleine nature dans le quartier Montmartre, on peut dire.
Oui, oui. Avec ce qu'était Montmartre à l'époque, la rue Le Pic, les marchandes de 4 saisons, ça a bien changé.
C'était vraiment le Montmartre du cinéma que vous avez connu, tellement pittoresque.
Bien sûr.
Et il avait là d'ailleurs deux maisons dont l'une lui a servi pendant la guerre.
C'était une maison qui appartenait à Marcel Samba.
Oui.
Donc il y avait une maison directoire et à côté il y avait un très très grand atelier d'artiste car sa femme était peintre, elle s'appelait Georgette Agut. Et là il y avait la place pour 3 voitures, il y avait 3 chambres et le grand studio de mon père. Voilà, ils habitaient chacun dans leur maison.
Et son poste pour écouter la BBC pendant la guerre.
Ah ben ça, c'est autre chose. Ça avait été choisi par le réseau Praxitel parce que les agents secrets pouvaient partir par les toits.
Ah voilà.
Vers le Moulin Rouge. Donc c'est pour ça qu'on a eu pendant toute la guerre des gens qui venaient de Londres et qui m'apportaient du chocolat d'ailleurs.
Du chocolat?
Oui, à moi qui étais petite fille. Mais je ne savais pas qui c'était. Personne ne le savait, on disait que c'était des impresarios de Marseille, donc c'était assez secret, quoi.
Voilà. Il faut rappeler, votre père a été un résistant secret, ce qui lui a d'ailleurs parfois valu, après, à la fin de la guerre, d'être plutôt accusé d'avoir chanté pour les soldats en Allemagne, etc. Oui. Mais alors qu'en réalité...
Il était bien forcé d'y aller, là, parce que c'est tout. Mais ça lui a valu quelques médailles.
Voilà. Et vous parlez jamais de votre mère ?
Ma mère était... C'est drôle parce que du côté de mon père, c'était des administratifs. Mon grand-père était directeur de l'assistance publique. Et ma mère était la fille d'un comédien qui s'appelait Gaston Arduini et qui travaillait à l'époque. Il y avait le théâtre de Ménilmontant, le théâtre de Belleville. Il faisait tous ces théâtres-là. C'était un très grand premier rôle. Ma grand-mère était souffleuse. Ma tante, la sœur de maman, était danseuse.
Et en son fait, mari... c'était le vrai côté artistique, alors.
Que des gens de métier. Et quand elle a rencontré mon père, il lui a dit « Écoute, t'as pas besoin de travailler », il lui a fait quitter le métier.
Ah, c'est curieux. Voilà. Et c'est une femme assez effacée.
Elle n'était pas drôle, rien ne l'amusait, elle n'aimait pas manger, elle n'aimait pas boire, alors que papa adorait ça. Et moi aussi.
Alors, on la voyait si peu qu'on a fini par croire que sa femme, c'était Jeanne Sourza.
Non, oui, forcément, ils ont travaillé quand même 40 ans ensemble.
Voilà.
L'émission a débuté, je crois, en 36, à Radio Cité, et ça s'est fini en 62 à la mort de Jeanne. Mais ça s'est arrêté les 3 ans de guerre.
Et c'est là vraiment que votre père est devenu célèbre. C'est avec Sur le banc et dans son duo
Bien
avec
sûr.
Jeanne Sourza.
Vous savez, quand j'étais petite fille, j'allais à l'école rue Chaptal, une rue qui donne dans la rue Blanche. Et quand je remontais avec la dame qui s'occupait de moi, l'été, je pouvais suivre toute l'émission, toutes les fenêtres étaient ouvertes
et tout le monde écoutait le programme.
Il y avait Michaud, il y avait Langlois, il y avait Landouillard, et il y avait moi.
Bonjour, Léolette.
Salut. Il y avait aussi Jean Latripette, nous étions sept.
Mais t'es fou, toi.
Il y avait Michaud, il y avait Langlois, Regarde-moi. Il y avait Landouillard, il y avait moi.
Mais t'as bu, toi.
Il y avait aussi Jean Latripette, nous étions sept.
Vous étiez sept, tous des pochards, oui. Mais qu'est-ce que c'est que ces gars-là?
Ah, c'est une chanson.
Oh, c'est une chanson. Oh, dis donc, à propos, j'ai une idée. Si j'essayais de faire comme toi, tu sais, de chanter dans les cours...
Oh, tu pourrais pas, c'est difficile, et puis tu connais pas de chanson.
Oh, pardon, il y en a une que je sais presque, alors. Il y a un petit vieux qui la chante toujours à la Bourse au Mégot.
Quelle est ta chanson?
Attends, c'est... Mignonne, quand le soir descendra sur la terre, et que le rossignol viendra chanter encore...
Ah, ben, c'est la chanson des blésors, ça.
Oh, peut-être bien. Mignonne, quand le soir descendra sur la terre... Mais oui, mais il faut que je reprenne tout parce que sans ça, je m'en rappelle plus.
Ah, ça devrait être comme dans les romans feuilletons, résumé des chapitres précédents.
Tais-toi. Mignonne, quand le soir descendra sur la terre et que le rossignol viendra chanter encore quand le vent soufflera sur les vers de gruyère.
Ouais, je dis.
Mignonne, quand le soir...
Ah non, descendra... simplement la fin, là.
Mais je te dis qu'il faut que je recommence tout. Mignonne, quand le soir descendra sur la terre et que le rossignol viendra chanter encore...
Là.
Quand le vent... soufflera sur les vers de gruyère.
Ah ben j'avais bien entendu, c'est pas les vers de gruyère, c'est la verte bruyère.
La verte bruyère, oui. Ça veut rien dire. D'abord la bruyère c'est rouge.
Eh ben c'est quand même sur la verte bruyère.
T'es sûr? Oh, tu m'étonnes. Sur les vers de gruyère, ça veut dire quelque chose.
T'as déjà vu le vent souffler sur les vers de gruyère?
Ben pourquoi pas. S'il y a un morceau de gruyère avec des vers et puis qu'il y a du vent, il souffle dessus.
Ah ben possible, mais c'est sur la verte bruyère.
Bon, allons-y pour la bruyère. Mais moi je dirais la rouge bruyère. Mignonne, quand le soir descendra sur la terre et que le rossignol viendra chanter encore quand le vent soufflera sur la rouge bruyère. Allons cueillir la fraise dans le bois de Meudon. Quand nous en aurons 13, nous nous arrêterons.
Ouais, c'est pas ça du tout.
Comment c'est pas ça?
Mais non, c'est nous irons écouter la chanson des blés d'or. Nous irons écouter la chanson des blés d'or.
Tu la sais même pas, toi, tu répètes deux fois la même chose.
Ah, parce que c'est comme ça dans la chanson.
Ah ben, le petit vieux, il la chante comme ça.
Ah oh, ben, il y connaît rien.
Bon, j'ai compris, j'insiste pas. J'ai affaire à un jaloux, c'est tout. J'aurais pas chanté dans tes cours.
Ah ben, tu feras bien, parce que pour chanter ça, alors...
Qu'est-ce qu'on mange?
La morue.
Oh, on va avoir soif.
Tiens, lave-la.
Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Ben, c'est la morue.
Elle est salée.
Ah oh ben, je pense bien, j'en aurais jamais voulu d'autre, d'ailleurs.
Mais ça va pas être mangeable. Faut la faire dessaler.
Penses-tu?
Oh, et puis dis donc, elle est pas cuite.
Mais ça se mange comme ça, comme des petits salés, quoi.
Mais je te dis que ça se fait dessaler.
Mais non.
Oh, moi, je veux pas manger ça comme ça.
Eh ben, laisse-le.
Ou alors, je réponds de rien.
Pourquoi tu réponds de rien?
Ben, pour le vin. Je préviens tout de suite que si je prends le lit pour moi toute seule, je n'aurai pas de trop.
Ah ben non, alors...
Me fallait faire le salé la morue,
ah ouais, mais il y a pas de raison.
Et voilà, c'était en 1950, là, après la guerre, un épisode de Sur le banc irrésistible, Raymond Souplex et Jeanne Sourza, texte de Raymond Souplex. Hein.
Oui, oui, on le réveillait tous les matins à 9h,
oui.
Avec les journaux du jour.
Oui.
Il écrivait le sketch et il passait en direct à midi.
Il écrivait chaque jour pour,
tous les
pour
jours.
Le direct.
Tous les jours en direct. Il avait une facilité d'écriture...
Oui, énorme. Assez exceptionnel.
Oui.
En tout cas, voilà, on peut en retrouver d'ailleurs certains de ces sur le banc chez Marianne Mélodie qui en a réédité des épisodes. Et Perrette Souplex, évidemment, ayant grandi dans ce milieu, vous pouviez pas faire autrement que devenir comédienne.
Bah oui, j'en ai eu envie.
C'est arrivé très vite.
Je suis rentrée au conservatoire, j'avais 15 ans.
Oui.
J'étais la plus jeune. On me dit souvent, bah, t'étais au conservatoire avec Belmondo, avec Marielle, avec Rochefort. Ben, je dis non, moi j'y étais en 1945, j'avais 15 ans, j'étais la plus jeune, et eux ils sont rentrés simplement au conservatoire en 50.
Votre père vous a encouragé, il vous a pas
ah
poussé
oui,
à
non,
faire un autre
il
métier.
Fallait que je parte par une école, il m'aurait
ah
pas
oui.
laissé partir comme ça, fallait être sérieux.
Et votre mère?
Ah ben ma mère a toujours aimé ça. Oui.
Aimé ça aussi.
Oui, oui.
Béatrice Dussane, elle vous a beaucoup marqué?
Ben oui, je comprends qu'elle m'a marqué, Béatrice Dussane. C'était une femme exceptionnelle. Elle, ouais. J'ai appris beaucoup auprès d'elle, puisque je suis restée quand même 4 ans. Ils n'ont pas voulu que je concours la première année parce que j'étais trop jeune.
Et pourquoi est-ce que tous ceux qui ont été ses élèves la citent comme une espèce de,
ah ben
de légende, de modèle?
C'était un personnage extraordinaire.
Ouais.
Elle avait des tas d'histoires à raconter. Elle avait... Moi, j'ai appris... beaucoup près d'elle. Et j'avais un autre professeur que j'ai eu pendant 2 ans, c'est Louis Jouvet.
Oui, c'est quand même...
C'était le professeur d'ensemble.
À la même époque, d'ailleurs, votre père a joué au cinéma avec Louis Jouvet dans Lady Paname.
Oui, voilà. Oui. Et alors, au conservatoire, c'est rigolo ça, le premier jour où il arrive, il nous faisait quand même un peu peur, hein, on était tous très jeunes quand même. Et il dit, vous allez me dire pourquoi vous voulez être comédien. Alors, je vois tous mes copains se casser la tête parce que c'est le plus beau métier du monde, parce que c'est ça. Et puis moi, ça m'a énervé et j'ai simplement marqué pour gagner ma croûte comme papa. Et ça l'avait fait rire, il en parlait encore avant sa mort à papa en disant, j'ai dit ça.
Alors, on a dit qu'on allait essayer aujourd'hui aussi d'évoquer quelques personnages. Et je pense, là, dans ces années 47, 48, notamment, quelqu'un que vous avez connu très tôt, c'est Bourvil.
Oui, bien sûr.
Vous étiez encore donc une toute jeune fille, vous avez 18 ans.
Je sortais du conservatoire, c'était en 49.
49, voilà.
Et Bourvil, c'était quand même extraordinaire, parce que quand il est devenu vedette d'un seul coup. Et mon père me disait, il y a 10 ans que je fais des galas avec Bourvil... Il passe en numéro 1 avec les crayons, son pantalon trop court et comme
ouais,
il était,
ouais.
Et il se prend ce qu'on appelle dans le métier des bides.
Ah, ça marchait
ça
pas.
Ça ne marchait
ah,
pas
oui.
du tout.
Ouais.
Et pourquoi tout d'un coup, avec la même chanson, la même tête,
c'est
le
drôle.
Même talent, il est devenu grosse vedette.
Mais vous êtes retrouvés ensemble alors,
alors
au théâtre.
Alors oui, c'était une pièce qui s'appelait Le Bouillant Achille.
Oui.
Et il jouait un mon père qui revenait des colonies.
C'était mis en scène par Robert Derry, non c'est,
oui,
c'est ça.
Par Derry, et c'était au Théâtre des Variétés.
Et donc, Bourvil jouait le rôle de votre père?
Oui, pas non, de mon vrai non. père. Il revenait des colonies, et il découvrait sa fille qui avait 18 ans, et voilà.
Et alors, il venait à alors, bicyclette.
Ah oui, bah oui quand, au début, quand on répétait, il n'avait pas beaucoup d'argent, il habitait la banlieue, il venait à bicyclette. Et puis un jour, il me dit, viens, il faut que je te montre quelque chose. On descend devant le Théâtre des Variétés. À l'époque, les voitures s'arrêtaient très bien, il n'y avait pas beaucoup de circulation. Et il me dit, regarde ma voiture, il avait une belle voiture. Ben, je lui dis, c'est bien ça. Puis je baisse les yeux, je lui dis, mais pourquoi t'as gardé tes pinces à vélo? Machinalement, il avait mis ses pinces à vélo.
Il en a même fait une chanson.
Je m'en allais chercher des oies, du côté de fouiller les oies, à bicyclette. Soudain qui vois-je devant moi, une belle fille au fréminois, à bicyclette. En arrivant à sa hauteur, j'y fais un sourire enchanteur, à bicyclette. Elle rit aussi, on parle alors, et elle me dit dans nos transports, à bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. Avez-vous fait le tour? Tour de France, non, mais j'ai fait des tours. Des détours, des contours, et même d'autres tours. Des tours de quoi qu'elle me dit? Des tours de vélo, pardi. Vous êtes un blagueur. Est-ce que vous êtes coureur? Vous parlez d'un raisonnement? Coureur. Enfin, ça fait rien. Bon. Dans les champs chantent les grillons, le soleil dardait ses rayons de bicyclette. Elle voulait que je chante un brin, mais à cela j'ai mis un frein de bicyclette. Près d'un tournant, il y avait un bois où l'on se dirigea ma foi à bicyclette. Mais comme elle roulait près de moi, voilà qu'elle me fait presque à mi-voix. À bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. Vous savez faire la cour? Oui, j'y réponds, car pour de ce qui est faire la cour, je la fais chaque jour. La cour, et qui qu'elle me dit? La cour de la ferme, pardi. Vous êtes un blagueur. Est-ce que vous êtes coureur? Vous parlez de raisonnement? Il ne fallait pas qu'elle soit intelligente pour toujours dire ça. Enfin, bon. Dans le bois, j'y disais, voyez donc, sans boussole, nous nous guidons des bicyclettes. Mais elle répétait pleine d'ardeur que j'étais un coureur, des bicyclettes. Je ne l'étais pas, ça s'est couru, mais alors je le suis devenu à ces bicyclettes. Bon, là, je ne peux pas rien le dire. Et comme je courais vers le but, voilà qu'elle me fait comme au début. À ces bicyclettes, là, bon, là, à bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. J'irai 10 ans courant, car je continuais de courir vers le but à conquérir. Vous êtes au courant. Mais à force de courir, parcourir, discourir, vélo s'est dégonflé et je suis pas arrivé. Moralité, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Comme l'a si bien dit la tortue.
Connaissez-vous Pierrette Souplex? En tout cas, vous connaissez sûrement son papa, Raymond.
Ne compliquez pas les choses, c'est déjà assez d'ennui aujourd'hui, vous comprenez.
Raymond Souplex, évidemment. Eh bien, la Corte Pérette se présentait ce matin devant Jacques Cathy, maire de la commune libre de Montmartre, au Pichet, place du Tertre, chez l'excellent Jean Caillat, pour épouser Michel Ruel Duflo.
Il donne le signal. Nous allons procéder à la cérémonie. La commune libre de Montmartre, ne possédant ni code civil, ni code pénal, ni code de la route, ni code d'aucune sorte d'ailleurs, nous sommes obligés en la circonstance d'emprunter, avec la permission de M. Vincent Auriol, président de la République française, les passages, articles, les paragraphes nécessaires à la célébration du mariage au code Napoléon, dont l'éloge n'est plus à faire. Article 213 du code civil, la femme doit obéissance à son mari. Article 204 du code de justice militaire, le refus d'obéissance est puni d'un an à 5 ans d'emprisonnement. Malgré cela, Pérette Souplex, consentez-vous à prendre Michel Ruel Duflo pour époux?
Ouais.
Ça manque d'enthousiasme. Attendez, article 123 du code des civilités et usages mondains. Un galant homme doit se soumettre entièrement à tous les désirs et caprices de sa dame. Malgré cela, Michel Ruel Duflo, persistez-vous à prendre Pérette Souplex pour épouse?
Ça peut vous faire plaisir.
Moi, ça fera plaisir.
Pérette Souplex, vous vous êtes vraiment mariée à la commune
libre
de Montmartre?
Oui, c'est vrai. Oui. D'abord à la mairie, normalement.
Ah oui, ça c'était en plus pour les amis.
Voilà, c'était en plus. C'était le même jour.
Et c'est suivi d'ailleurs dans le document radiophonique très ancien qu'on vient d'entendre, c'est 1949.
Hein. Oui.
C'est suivi par un discours de Noël, qui était un ami de la famille, j'imagine, de votre père.
Oui.
Vous l'aimez bien,
Noël? Oui, j'aimais beaucoup Noël.
Et puis une chanson de Robert Rocca en hommage aussi aux jeunes mariés.
Alors là, je me souviens de rien du tout. J'ai tout oublié.
En tout cas, vous vous êtes mariée très jeune.
Oui, trop jeune.
Trop jeune.
J'aurais dû vivre ma vie avant.
Mais du coup, vous avez recommencé plusieurs fois.
Oh bah oui, parce que je me suis dit, on va recommencer.
Voilà. Alors, on revient une seconde à Bourville. Vous me racontiez dans cette pièce avec Derry une anecdote. Parce qu'il vous faisait rire en scène, en fait.
Bah oui, il me faisait rire. Et moi qui étais sortais du conservatoire, rire en scène, c'était pas
interdit.
Bien,
ça ne
se faisait pas.
Ouais.
Et un jour, les machinaux m'ont dit, est-ce que tu veux qu'il arrête de te faire rire? Ben, je lui ai dit, oui, faites quelque chose. Ben, il dit, écoute, c'est facile. Il faut vous dire qu'à cette époque-là, j'étais toute jeune, j'étais pas mariée, j'étais pure et vierge, et j'étais un peu nunuche. Et il me dit, ben, écoute, tu vas le coincer, et il te fera plus jamais rire. Puisqu'il arrive du Congo avec son chapeau et puis son petit short et qu'il te découvre et que tu lui dis « Oh, que tu es beau, mon papa !» à toi qui as 18 ans, tu vas lui dire, parce qu'il y a un prénom là-bas qui est très très connu, « Oh, que tu es beau en papa outé !»
Voilà.
Et moi, je l'ai dit.
Le papa...
Ah, que tu es beau en papa outé !» Les gens ont ri dans la salle, lui, il est parti sous le canapé. Alors, comme j'ai trouvé que ça m'avait fait rire, j'ai dit, tiens, c'est un bon effet, je l'ai refait une deuxième fois. Et il ne m'a plus jamais fait rire.
Alors, ça, c'est donc vos débuts au théâtre, où vous avez évidemment beaucoup joué au cours des années suivantes. Et puis, vous avez également fait assez rapidement vos débuts au cinéma, Perrette Souplex. Et alors, je voudrais qu'on évoque un autre personnage avec qui vous avez tourné,
oui. C'est
Luis Mariano.
C'était
un peu petit, un petit peu plus tard, en 1951.
50. Oui, en 1950, on a tourné en Andalousie, cette production qui s'appelait Andalousie.
Qui était donc une adaptation de l'opérette.
Oui, avec Carmen Sevilla. Et
Carmen Sevilla qui jouait le rôle principal.
Oui, elle était très belle. Et moi, je jouais la petite amie de Maurice Baquet, était un rémouleur de couteau.
Oui.
Voilà. Et ça a été extraordinaire. Il était très, très gentil. Mais il était très enfant gâté. S'il n'avait pas la table qu'il avait eue la veille dans un restaurant, il tapait du pied et il faisait la colère.
Voilà, c'est
Mais
ça.
Mais quand on riait, il riait.
Donc, Mais c'était quand même un bon camarade.
Adorable.
Voilà.
Il n'a jamais essayé de tirer la couverture, comme on dit dans le métier. Non, il était très, très, très gentil.
Et votre duo avec Maurice Baquet, Maurice Baquet
c'était
un grand fantaisiste.
Oui, c'était un grand comédien.
Oui.
Il ne faisait pas que descendre à ski des escaliers. Il savait très bien jouer la comédie.
Vous vous êtes d'ailleurs retrouvé également, sauf erreur de ma part, au même moment avec votre père dans un film musical, si on peut dire, qui s'appelait Paris chante toujours.
Paris chante toujours, oui.
Voilà.
Mais je ne chantais pas, je jouais un petit rôle. Je n'avais rien d'important. Mais...
Voilà. Vous aimiez bien le cinéma?
Non.
Pas tellement?
Non.
Vous préfériez les planches?
Ah oui, j'aime mieux les planches. Ouais. J'en ai pas fait beaucoup, des films, et je préfère le théâtre.
Alors, on va retrouver tout de suite justement Luis Mariano dans un extrait d'Andalousie. Là, c'est pas la bande sonore du film, mais c'est l'enregistrement original de l'opérette.
Aïe, 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 Le bleu de l'eau qui passe, garde l'azur du ciel si bon. Mesdemoiselles, je vous rappelle, et je l'avoue à demi-mot, si mon argile est si fragile, ce pour la remplacer Pluton. Plus vous cassez d'Alcarazas, plus vous plaisez à Juanito. Mon seul trésor, c'est le ciel bleu. Mon seul argent, le clair de lune. Mais je possède, sachez-le, au fond du cœur, une fortune. Souvent au hasard du chemin, me sourit la blonde ou la brune. Mais ça ne peut aller plus loin, car je ne veux en aimer qu'une. Mon cœur est une Alcarazas qui garde l'amour le plus beau. Plus que l'argile, il est fragile, il ne faut pas le choquer trop. Et si ma belle est infidèle, il peut se rompre en morceaux. Rien pourrait briser l'as, le pauvre cœur de Juanito.
On ne le remplacera jamais.
Mariano, c'est vrai, c'est une voix unique, c'est un personnage unique, presque irréel, oui, comme oui, ça, et oui, avec lequel donc vous avez tourné dans Andalousie. On peut d'ailleurs toujours voir le film, hein, et vous retrouvez Perrette Souplex dans ce rôle de petit ami de Maurice Baquet. À la même époque, alors là, on avance un tout petit peu, en 55, évidemment, il s'est passé une chose importante, c'est que vous avez créé votre groupe. C'était pas un groupe de rock à l'époque, c'était un groupe de filles, et les filles de trois des plus grands chansonniers de Paris, puisque c'était Françoise Dorin, fille de René Dorin, c'était Suzanne Gabriello, la fille de Gabriello, et c'était donc Perrette Souplex, la fille de Raymond Souplex, et votre groupe s'est appelé Les Filles à Papa.
Les Filles à Papa.
Et qui a eu l'idée de ça ?
Eh bien, on a fait une émission Radio Luxembourg, je ne sais pas pourquoi on était invitées toutes les trois, puis après on est allées boire un verre, toutes les trois toujours.
Vous étiez amies d'enfance en fait ?
Oui,
tous,
oui.
Vos pères
oui,
se connaissaient.
On se voyait dans les coulisses, etc.
Vous alliez d'ailleurs...
Mon père m'emmenait rarement, il n'y avait pas beaucoup.
Ah, oui. Ah bon, c'était pas très
quand
bien.
Quand même de temps en temps, de temps en temps. Puis il y avait les galas des chansonniers tous les ans, oui, où on était bien sûr. Et on a dit, tiens, pourquoi on ne monte pas un truc comme ça? Ça serait rigolo. Et puis, comme les gens disaient, mais on les entendait faire... Et on avait fait faire des masques de nos pères. On les avait envoyés à Grévin faire leurs masques. Ouais. Et on entendait bien au début quand on disait, c'est nous les filles à papa. Ils disaient, c'est celle-là, mais non, c'est celle-là. Et à la fin de la chanson, on sortait nos masques et on les mettait sur nos figures.
Voilà. Et ce groupe, alors, il a participé à des disques, d'ailleurs.
On a fait énormément de choses. Voilà. On a fait des disques avec Chevalier, Là-haut et Dédé.
Exactement, vous chantez les petits cœurs de Girls.
On faisait toutes les émissions de Jean-Noël, les 36 chandelles, on était dans toutes les émissions de Spade. Ah, et oui, on faisait à midi les émissions de Ferral et Chabanne.
Mais c'est quand même un peu paradoxal, parce que je me rappelle que Françoise Dorin, votre amie qui est venue souvent à cette émission, m'a toujours dit qu'elle était la fille la moins musicienne qui existe. Alors comment vous faisiez ?
Non, mais on a essayé d'apprendre le chant. Parce qu'on a dit, alors, les compagnons de la chanson, qui étaient des copains tous, oui, nous ont dit, on va t'envoyer notre professeur de chant. J'ai cru qu'il allait devenir fou. Il a dit, mais qu'est-ce qu'on m'a fait comme vache ?
Il y en avait une qui était plus douée que les autres ?
Non, c'est moi qui m'en suis,
vous en
m'en
sortiez
suis bien sortie. Oui. Françoise n'a plus jamais chanté. Et Suzanne, un petit peu, avec Prolier à l'Olympia, etc.
Alors, il y a aussi, dans cette période des filles à papa, un certain nombre d'anecdotes qui vous rapprochent d'un jeune chanteur qui faisait vraiment... Alors, ses débuts à l'époque, c'est l'époque, je crois, de son premier disque, c'est Jacques Brel.
C'est Jacques Brel. Voilà. C'est Jacques Brel qui ne serait jamais devenu vedette si Jacques Canetti ne s'était pas
bien
obstiné,
sûr,
car il lui faisait faire du travail. Ça marchait pas du tout, du tout, du tout. Ouais. D'ailleurs, cette tournée-là, en vedette, c'était Poiret et Serrault. En vedette américaine, c'était De Vos, Raymond De Vos, et nous. Et lui, il passait en numéro 1.
Ah oui, c'est-à-dire, ouais, c'est le moins bien.
Hein, oui, oui, genre, oui, mais c'était... Un, voilà.
Mais et vous étiez dans le même spectacle, Les Filles à Papa.
Le même spectacle.
Avec Poiret, Serrault et
oui,
De Vos.
Oui, oui, oui.
Extraordinaire.
Oui, oui, mais enfin, eux étaient un peu connus.
Oui, oui.
C'était les plus connus, Poiret et Serrault, quand même.
Alors, le petit Brel, donc personne s'y intéressait.
Non. Mais quand on est parti en tournée, Canetti, il faisait faire des kilomètres, hein, des 600 kilomètres par jour, ça ne le gênait pas du tout. Ouais. Et donc j'avais une voiture et les filles m'ont dit « Ah, oh, tu crois pas qu'on va passer 2 mois dans une voiture avec une capote, on va avoir chaud, achète une décapotable. » Alors je dis oh, « Écoutez, vous m'embêtez, enfin elles m'ont tellement tanné que j'ai acheté une Océan bleu ciel décapotée.
Oui. »
Et bien au bout de 3 jours, Suzanne Gabriello était dans la voiture de Brel. Et Françoise Zora était dans la voiture de Poiret, qu'elle a épousée peu de temps après d'ailleurs. Et moi, j'étais toute seule dans ma décapotable.
Le Gabriel Aubrel, ça a bien marché aussi.
Oui,
hein.
Bah oui, ça a bien marché, mais il n'a jamais divorcé. Il avait deux vies, quoi.
Voilà, c'était un peu compliqué, on va dire.
Oui.
On va vous retrouver, alors, les filles à papa. Alors, d'abord, j'ai recherché encore un petit document que vous ne connaissez peut-être pas. C'est justement en 1955. Vous savez que 1955, c'est l'année où Mendès France voulait faire boire du lait aux enfants
dans les écoles. Oui, je me souviens de ça, oui.
Voilà, et on vous a fait goûter le lait des enfants pour une émission de radio à toutes les trois, vous allez entendre.
Ah bon.
Puis après, on va retrouver les filles à papa dans leur tour de chant.
Mais vous êtes un génie de trouver tout ça, vous.
Vous savez, c'est pas moi, c'est grâce à Lina qui conserve précieusement toutes nos archives.
Nous avons là Mademoiselle Souplex, Mademoiselle Dorin, Mademoiselle Gabriello. On les reconnaît à leur casaque, c'est comme les cheveux. D'ailleurs, il y en a une qui a une queue de cheval. Il y en a une qui est rouge, il y en a une qui est bleue, il y en a une qui est grise. Alors commençons par la rouge, casaque rouge.
Casaque rouge, casaque.
C'est Mademoiselle Souplex. Souplex. Oui. Vous trouvez ça bon? Elle disait il y a quelques années, ça me rappelle mon jeune âge.
Oui, non, pas le lait, enfin, parce que moi l'école, on nous distribuait du biscuit vitaminé et des petites pastilles rouges vitaminées qui étaient fort mauvaises d'ailleurs.
Est-ce que vous êtes jeune, parce que c'était pas si.
Oui, oui, mais c'était aussi pendant l'occupation, j'étais encore à l'école quand même.
Eh oui, assez bien, oui, bien ça, oui, parce que moi j'évoquais des souvenirs qui dataient évidemment d'une trentaine d'années de l'école. Mais oui, c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait le même âge. Et le lait, alors vous aimez le lait?
Oui, beaucoup, énormément. D'ailleurs, j'ai bu tout mon petit carton.
Et d'ailleurs, les enfants vous regardaient déguster ce lait avec une espèce de passion en se disant « Tiens, mais même elles aussi, comme ça, veulent grandir. »
Oui, on va leur donner le bon exemple. On viendra tous les jours, d'ailleurs, à 4 heures, boire le lait avec eux.
Casaque bleu, c'est Mademoiselle Dorin.
Oui.
Qui est là, elle aussi. Mais elle a fini déjà son lait.
Oh, j'ai déjà fini parce que je trouve ça très, très bon.
Vous êtes avancée pour votre âge.
Oh, oui. Je ne suis plus à l'âge du biberon, mais enfin, je suis encore à l'âge du lait, de la boîte au lait.
Oui. Et vous auriez aimé comme ça qu'au cours de votre enfance, on interrompe les cours?
Oh, du moment qu'on interrompait les cours, moi, j'étais toujours pour ce qui interrompait les cours, que ce soit du lait, du chocolat ou n'importe quoi.
Ah, bah, c'est charmant.
J'aurais aimé.
Heureusement
ça.
Que les enfants ne nous écoutent pas, sans ça, ils verraient quel exemple donnent les grandes personnes. Jolie, belle mentalité.
Oh, je crois que c'est de toutes les générations, vous savez.
Alors nous arrivons maintenant à la casaque grise, c'est Mademoiselle Gabriello,
oui.
qui a la minceur contraire de son père. Qui est là
grâce au ciel d'ailleurs.
Mais bientôt grâce au lait, vous allez combler ce retard. Non?
Écoutez, est-ce que je peux dire la vérité?
Ah oh oui, dites-la.
Moi je ne bois jamais de lait. Mais je suis sûre que si je buvais du lait, je boirais celui dans les petites boîtes en carton parce que c'est vraiment très bien présenté.
Mais alors, je comprends tout, cette boîte vide que vous avez entre les mains, vous avez choisi parmi les cartons échantillons qu'on présentait qui ne contenaient pas de lait, c'est bien ça?
Pour tout vous dire, oui.
C'est nous, les filles à papa, qui n'avons rien fait pour cela. On n'a pas choisi, on ne nous a même pas demandé notre avis. Si nos pères étaient
plombiers ou zingueurs, pédicure chinois ou bien artilleurs,
s'ils s'étaient appelés Durand ou Dupont, on n'aurait pas craint de prendre leur succession. Non, c'est nous, les filles à papa, qui n'avons rien fait pour cela. On n'a pas choisi, on ne nous a même pas demandé notre avis. Mais il a fallu, dans tous les métiers, qu'ils choisissent le seul qu'on s'est réservé et qu'ils prennent nos noms. Ah, ça c'est du culot. Les Dorin, Souplex et Gabriello. C'est nous, les filles à papa, qui n'avons rien fait pour cela. On n'a pas choisi, on ne nous a même pas demandé notre avis. Ils nous disent maintenant, paterneux et bon, vous n'avez plus qu'à vous faire un prénom. Mais pour le moment, on ne vous le cache pas, nous sommes encore des filles à papa.
Voilà, Perrette Souplex. Je disais tout à l'heure, on a des documents radiophoniques rares qui nous viennent des archives de l'INA, et puis on a des disques merveilleux à la discothèque de Radio France. Et alors, j'ai retrouvé toute cette série qui s'appelait Histoire de Paris. C'est des disques 25 cm DK qu'on a ici aux archives. Et alors, sur une face, ce sont les trois pères, justement, qui répondent à leur fille, René Dorin, Gabriello, Raymond Souplex. Sur l'autre face, c'est ce qu'on vient d'entendre, les trois filles avec Robert Valentino et ses rythmes.
Oui.
Vous vous rappelez l'enregistrement de ce disque? Et c'était Françoise Dorin qui écrivait les textes des chansons.
Textes,
alors.
Oui.
Voilà, en tout cas, un joli souvenir. Voilà, des filles à papa, dont on peut retrouver aussi, vous le disiez, quelques disques d'opérette avec Maurice Chevalier. Ça n'a pas duré si longtemps que ça, finalement, les filles à papa.
Non, 3 ans.
3 ans.
Oui, 3-4 ans.
Voilà, mais ça a marqué les esprits.
Bon, on n'allait pas à 70 ans dire « c'est nous les filles à papa ».
Non, c'est vrai. Il s'est passé, d'ailleurs, je reviens à votre père, quelque chose d'important. Après, à la fin des années 50, c'est que, bon, déjà, il avait connu la gloire avec Jeanne Sourza, mais il l'a connu encore plus auprès du grand public à ce moment-là, avec les 5 dernières minutes.
Ben oui, c'est-à-dire qu'il a fait un film qui s'appelait « Identité judiciaire », où il jouait un commissaire de police.
Il s'appelait déjà Bourrel ?
Non. Et ça a donné l'idée à Claude Lourcet de monter la série.
Et votre père, là, est devenu un des hommes les plus populaires de France.
Oui, mais ça l'a gêné dans sa carrière. Moi, souvent, je lui disais, arrête avec ce personnage. Tu peux rien faire d'autre. Il y a eu une émission qui s'appelait L'Histoire, ou je ne sais plus, de Cardinal.
Oui.
Et il devait jouer un prêtre. Et au dernier moment, ils lui ont dit oh, « ben, c'est pas possible, on va dire Bourrel est rentré dans les ordres ». Donc ça lui a cassé la suite de sa carrière.
Mais il continuait quand même à faire le chansonnier dans des petits théâtres parisiens.
Parce qu'il écrivait beaucoup, oui, il l'a fait encore après la guerre. Et puis il écrivait beaucoup les deuxièmes parties des deux ânes. D'ailleurs, je suis en train de chercher un truc que je ne retrouve pas. Il avait écrit deuxième partie qui s'appelait « L'étrange rêve » de Monsieur Belette, qui a duré toutes les années de la guerre et un peu après. Et il avait écrit un truc qui, à mon avis, serait d'actualité. Je ne le retrouve nulle part. Ça s'appelait « L'horrible invention du professeur Prune ».
Oui.
Si jamais vous trouvez ça, dites-le-moi.
Appel aux auditeurs.
Oui, c'était un bonhomme qui avait inventé une machine à supprimer la connerie. Et il se rendait compte dans tout le texte que c'était pas possible.
Ça marchait
que s'il n'y avait pas de con sur la Terre serait foutue.
L'art des chansonniers, il a un petit peu disparu finalement aujourd'hui.
Oui, il n'y en a plus beaucoup. Il y a des petits jeunes qui essaient de partir.
Le dernier, c'est pour vous.
Pour moi, c'est Maillot.
Jacques Maillot.
Ah oui, Jacques Maillot, c'est la vieille école des chansonniers.
Ouais.
C'est l'actualité. Je lui dis tout le temps, mon père aurait été heureux de te connaître parce que j'aime beaucoup, beaucoup Maillot.
Voilà, en tout cas, c'est vrai que c'est un art qu'on ne connaît plus et qu'on peut redécouvrir un peu par les disques.
Oui.
Mais vous admiriez particulièrement certains d'entre eux, Rocca, Noël, Dorin.
En ce moment, il passe sur Internet un texte de Pierre-Jean Vaillard des années 81 sur Mitterrand. C'est extraordinaire.
Ah oui.
Allez, regardez, vous, auditeurs, allez voir ce texte de Vaillard qui est d'actualité, qu'on peut ressortir pour n'importe quel président.
Perrette Souplex, vous étiez, on l'a compris, très très attaché à votre père. Et je crois que sa disparition en 1972, ça a été un tournant dans votre vie.
Très, très dur. Je savais depuis longtemps qu'il avait un cancer du poumon. Il n'avait pas assez fumé. Mon père fumait des Lucky Strike. Il avait besoin du briquet le matin pour allumer la première cigarette. Et après, plus de briquet. C'est une cigarette qui allumait l'autre cigarette.
Qui s'enchaînait avec l'autre.
Voilà. Mais on ne lui a jamais dit, ma mère ne l'a jamais su non plus. On disait qu'on lui nettoyait les bronches alors qu'on enlevait des...
Voilà, en tout cas, malgré tout, évidemment, vous avez continué le métier. Vous êtes même remonté sur scène pour une opérette, Tabouche.
Oui, Tabouche, avec Préjean, avec Bernard Lavalette et Caroline Claire.
Que j'ai presque tous reçus, d'ailleurs, dans cette émission. C'était un vrai plaisir pour vous, je crois, de chanter Maurice Yvain.
Mais surtout qu'on n'était pas des chanteurs.
Ouais.
On était des comédiens qui chantent.
Oui,
et quand on nous a proposé ça, quand Martial, qui était le chef d'orchestre, nous en a parlé, j'ai dit, on n'y arrivera jamais. Et on avait un quatuor.
Le quatuor du pas de vis.
Oui, le quatuor du pas de vis. Et à la générale, et Dieu sait si les gens des générales ne sont pas tendres, puisque ce sont que des gens de métier, à la fin de ce morceau, ils ont applaudi 14 minutes.
Ah oui, c'est pas mal.
Et comme on s'était à la fin d'une danse, on avait une jambe levée, à un moment donné, Patrick Préjean dit « C'est bien, mais on fatigue
!» Alors, Perrette Souplex, je ne vais pas revenir, puisqu'on avait déjà fait une émission sur ça, sur tous les détails de votre carrière. Enfin, je pourrais rappeler voilà, qu'on vous retrouve aussi bien dans La Soupe aux Choux, dans Pinot Simple Flic.
La Soupe aux Choux, il ne faut pas éternuer, hein, sinon vous me ratez, là.
Oui, mais enfin, quand même, dans pas mal de films cultes, comme on dit aujourd'hui. Mais je voudrais évoquer encore, puisqu'on fait cette petite galerie de portraits, un personnage que moi, j'aime beaucoup, qui est un petit peu oublié aujourd'hui, mais qui était un comique très, très acide à sa façon, qui était Pierre Doris.
Ah bon, j'ai beaucoup travaillé avec Doris.
Oui.
Et il y en a qui lui doivent beaucoup.
Oui.
Monsieur Coluche, il lui doit beaucoup de choses.
Vous pensez,
oui. Oui, oui, oui. Et ça énervait Doris, d'ailleurs, quand il avait un truc qu'il avait dit lui.
Mais... Vous l'aviez connu comment? Sur un tournage sur une scène
Oui, dans les émissions de Noël, hein, il en faisait pas mal. Oui.
C'était de l'humour noir, un peu,
ah,
Doris.
Oui,
hein.
Oui, c'était de l'humour acide.
Oui.
Un petit peu ce que fait Jérémy Ferrari maintenant, quoi.
Voilà.
Que j'adore.
Et vous entendiez bien avec Doris?
Oui, très bien. Il était très, très gentil, très... Vous savez, finalement, je crois que les gens qui ont beaucoup de talent, ils sont très humbles.
Oui, souvent, oui.
Hein, c'est souvent les imbéciles qui sont...
On va le retrouver tout de suite, Pierre Doris, en 1970 à l'Européen, où il chantait une opérette avec Annie Cordy qui s'appelait « Indien vaut mieux que deux, tu l'auras » ou quelque chose comme ça. Et il chante une chanson sur sa boulimie.
Je ne suis pas de ceux qui se contentent de croquer une biscotte en buvant de la flotte. Moi, j'ai ce qu'on appelle du cœur au ventre. Et si j'ai le cœur bien bas, franchement, je ne m'en plains pas. Boulimie, tu me tortures et tu me tiens.
Voilà du boudin, voilà du boudin.
Quand devant un plat, je me retiens.
Voilà du boudin, voilà du boudin.
Je me sens triste comme un veuf.
À la corde.
Boulimie, je suis à toi, je t'appartiens.
Voilà du boudin, voilà du boudin.
Et comme et tonton Bastien,
voilà du boudin, voilà du boudin.
Si peu que l'on prend sa soutien. Tant pis pour la ligne mannequin.
La, 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 la.
Nos grands-parents savaient casser la croûte et au moindre repas s'en mettaient jusque-là. Oh, quel plaisir d'avoir une belle choucroute ou un bon cassoulet pour son petit déjeuner. Boulimie, tu me tortures et tu me tiens.
Voilà du boudin, voilà du boudin.
Je ne fixerai pas, je me contiens.
Voilà du boudin, voilà du boudin.
Quand j'en pourrais faire 8 ou 9.
Mayonnaise.
Boulimie, si je me soigne et m'entretiens.
Voilà du boudin, voilà du boudin.
Si je me bourre tout chrétien.
Voilà du boudin, voilà du boudin.
C'est qu'aujourd'hui je t'appartiens. Le régime sera pour demain.
La, 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 la.
Après-demain.
La, 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 la.
On verra bien.
La, la, la.
Boulimie, je t'appartiens.
Pierre Doris, il avait peut-être ce côté un peu comme Francis Blanche, un peu autodestructeur, non?
Oui, oui.
Certainement.
Oui,
hein, on sent
ah bah
ça
Francis
dans cette chanson.
Francis aussi, il nous a fait beaucoup rire, Francis Blanche. Il manque beaucoup. Hein.
Il manque beaucoup.
Oui.
Vous avez connu tous ces gens-là. Vous n'avez jamais fait partie, par contre, des Branquignoles où étaient
jamais.
Vos amis Gabriello.
Suzanne Gabriello, oui.
Voilà, Dorin les fréquentait aussi.
Oui, oui, moi,
vous,
non.
Vous n'en avez pas fait
non,
partie.
Non, on ne me l'a jamais demandé.
Mais vous avez fait beaucoup rire en scène dans les comédies, donc voilà, c'était d'une autre façon. En tout cas, donc, Perrette Souplex, ce qui est un peu inattendu dans votre carrière si parisienne, vous, la fille de la butte Montmartre, c'est qu'à la fin des années 80, vous êtes partie vous installer au Canada.
Oui, je faisais partie d'une compagnie qui s'appelait Les Acteurs de la Francophonie,
oui.
Où il y avait Philippe Clay, Daniel Evenoux, enfin, un tas de comédiens
de bonne qualité.
Connus. On a joué d'ailleurs une pièce de Victor Hugo qui s'appelait Mangeront-ils à la Comédie des Champs-Élysées. Et on est parti pour trouver 2 comédiens québécois,
ouais.
2 Belges et 2... Voilà. Et j'ai trouvé ce pays extraordinaire et j'ai dit, bah tiens, je reste.
Comme ça
oui, là, je suis un taureau, moi. Alors tout d'un coup, je fonce. Et donc, je suis restée là-bas, j'ai eu un théâtre.
Vous êtes installée dans quelle ville?
À Montréal, oh, bah non, je parle Québec, un anglais, un anglais lamentable. Et je me suis beaucoup amusée, j'ai fait de la télé, j'ai fait le spectacle de Fréhel, j'ai fait, je montais des pièces. Je travaillais beaucoup avec les lycées,
ouais.
C'est-à-dire que j'allais les voir, les professeurs de français, pour savoir ce qu'ils avaient au programme. Et je montais des choses par rapport aux auteurs qu'ils avaient choisis.
C'est comme ça que vous avez connu un petit jeune homme, alors inconnu, aujourd'hui voilà. Superstar, qui s'appelle Xavier Dolan.
Voilà, et c'était la veille ou deux jours avant que je rentre en France, il vient me voir, il me dit « Oh ben j'ai pas grand-chose, mais je voudrais bien que ça soit vous ». Bon, alors j'y suis allé, je jouais une coiffeuse, j'avais pas un mot à dire. Et puis à la fin, il m'a dit « Ah ben, de toute façon, le prochain film, même si vous êtes à Paris, vous venez ». Et donc, le premier s'appelait « Les amours imaginaires » et le deuxième, c'était
Laurence Anyway.
Et il m'a fait venir de Paris pour aller tourner là-bas.
Voilà, donc voilà. Vous êtes...
Et je l'adore, c'est un personnage étonnant.
Il travaille beaucoup,
tout. Il fait tout. Ouais. Il fait les costumes, il fait le montage, il fait les sons, il fait de la musique. C'est vraiment un personnage étonnant.
Vous aimez bien quand l'occasion se présente, aujourd'hui encore, justement, faire tourner une scène ou
refaire le métier. Ah bah oui, si vous me le demandez, bah oui,
ah oui,
bien
sûr. Vous êtes toujours partante.
Bien sûr, oui, oui.
Vous êtes revenu, Perrette Souplex, malgré tout, sur votre cher but Montmartre.
Oui, je suis revenu. Moi, je me suis dit quand même, je vais peut-être finir mes jours à Montmartre. Je les ai commencés là-bas, je vais les finir là-bas. Et puis, un jour, je vois Ginette Garcin.
Qui était une amie de longue date ?
Oh oui, 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 bien sûr. Je la connaissais depuis 50 ans.
Ah oui ?
Et elle me dit, oh, mais tu sais qu'il y a une tournée qui part, ils cherchent quelqu'un. Et je leur ai dit, pourquoi vous ne prenez pas Perrette ? Et c'est elle qui m'a remis le pied à l'étrier. Et je suis partie en tournée avec Christian Marin. Une pièce qui s'appelait « Le gang des seniors ».
Ah oui, bien sûr.
Voilà. Et on a tourné pendant un an avec ça.
Voilà, et c'est comme ça que vous nous êtes enfin revenus.
Voilà.
Et que...
Ah bah maintenant, je repars à poulu, là.
Oui.
Non, non.
Perrette Souplex, en tout cas, voilà. Mais merci d'avoir bien voulu venir évoquer avec nous tous ces souvenirs. Il y avait encore beaucoup de noms sur la liste. Hein. Il y avait, par exemple, bah, bien sûr, Poiré Serrault, on les a un petit peu évoqués tout à l'heure. De Funès, mais aussi Michou, votre voisin de la butte.
Oui, oh bah, lui, je le vois souvent, lui. Quand j'ai le courage de passer deux heures sur un fauteuil à boire du champagne...
Ah, vous y allez ?
Oh, maintenant, j'ai plus de mal. Mais lui, il s'installe à midi... Et il boit du champagne jusqu'à 8 heures le soir. Il a une santé de fer.
Et on l'a reçu d'ailleurs ici avec joie également. Merci beaucoup pour tous ces souvenirs, Perrette Souplex. Alors on va se quitter avec votre amie Ginette Garcin, puisqu'elle a joué quand même ce rôle de vous faire revenir en France.
C'est important.
Important. Oui. Je vous remercie en tout cas et puis je vous dis à bientôt.
Eh bien c'était bien agréable. Je vais reviendre.
Oui, la liste est devant moi. Voilà, j'ai tous ceux qu'on n'a pas encore vus.
Bonjour facteur.
Ah bonjour mon gars.
Beau temps aujourd'hui. Hein.
Ah pour un beau temps, c'est un beau temps, ça on peut le dire. Ah oui.
Quand le facteur part en tournée, on entend toute la matinée fredonner.
Parce que ça lui donne du courage, ça lui remet le cœur à l'ouvrage.
Et le peintre en bâtiment, quand il repeint l'appartement,
chante gaiement.
L'air de Guillaume Tell sur sa grande échelle.
Parce que ça lui donne du courage.
Mais oui.
Ça lui remet le cœur à l'ouvrage.
Bien sûr.
Mais le notaire qu'on voit passer avec son œil glacé, sa petite serviette, son pardessus et son air compassé, rasant les murs du vieux lycée à petits pas pressés, à qui il est triste, triste, triste.
Et puis moi quand ça ne va pas bien, j'ai compris, je chante comme ça.
Tralala.
Parce que ça nous donne du courage, ça nous remet le cœur à l'ouvrage.
Sans amour, les gens s'embêtent.
Sans chanson, pas de cœur au boulot.
Facteur, vous n'avez pas une petite lettre pour moi?
Ah non, mon gaillard, il n'y a rien aujourd'hui. La bonne amie à papa, c'est à toi.
Oh,
parce que ça me donne du courage. Ça me remet le cœur à l'ouvrage. Ça lui remet le cœur à l'ouvrage.
Et c'était donc Ginette Garcin en compagnie de Jean Marco, de Jo Charrier, de l'orchestre de Jacques Elian dans cette chanson de Mireille et Jean Nohain. Ginette Garcin, un choix de mon invité puisque j'avais le plaisir de recevoir ce matin Perrette Souplex. Et sur cette musique enlevée autant que joyeuse, extraite du ballet de La Favorite de Donizetti, j'ai le plaisir d'accueillir maintenant pour la chronique le plus fin des musicologues transgenres, monsieur Philippe Catté, qui va, je crois, nous surprendre aujourd'hui, parce que je vous avais dit on va à Bollywood tout à l'heure, mais en fait c'est pas du tout à Bollywood qu'on se rend. Bonjour Philippe.
Bonjour Benoît.
Mais alors vous m'aviez habitué aux douceurs et aux saveurs indiennes et je croyais qu'on était reparti ce matin pour Bollywood et pas du tout, vous avez voulu rendre un hommage à un de vos grands hommes.
Eh oui, oui, George Martin. C'est une sorte de chronique d'actualité puisque hélas George Martin nous a quittés le 8 mars dernier à l'âge de 90 ans. Et la production de John Martin, ça sonne, comme on vient de l'entendre à l'instant.
Voilà, ça c'était lui. Les Beatles, c'est beaucoup lui, vous allez nous l'expliquer.
Oui.
On a vu effectivement dans la presse qu'il avait disparu. Moi, je vous avoue que je ne savais pas grand-chose, donc vous êtes parfaitement là pour tout m'expliquer.
C'est vrai qu'il y a une carrière extraordinaire de George Martin, à la fois comme producteur et comme arrangeur. Bon, il est né en 1926, il nous a quittés donc le 8 mars dernier. Et évoquer son travail en une chronique, c'est à peu près impossible, sauf si on passe sous silence tout ce que le monde connaît déjà, c'est-à-dire Exit les Beatles. Alors qu'il a contribué donc le plus activement possible à tous leurs albums, sauf le projet Let It Be, auquel il ne croyait pas. Par exemple, le quatuor à cordes dans Yesterday, c'est lui. Le sextuor à cordes dans Eleanor Rigby aussi.
Toutes les bonnes idées, quoi.
Non. Souvent, il les a seulement mises en forme. Mais il y a plein de choses. Il y a des choses où c'est lui qui joue. Par exemple, le piano qui sonne presque comme un clavecin dans In My Life. C'est non seulement lui l'idée, mais c'est lui qui la joue. Et l'arrangement orchestral de Live and Let Die, de Paul McCartney, que nous venons d'écouter, c'est toujours lui. Alors, nous n'écouterons pas les Beatles ce matin, mais nous en parlerons tout de même pour mieux cerner la part qu'y a prise George Martin. Son rôle était important dans les arrangements, dans le son du groupe et dans son évolution. Mais il allait bien au-delà, car la couleur du groupe, ce n'était pas que les instruments, c'était essentiellement les voix. À ce propos, leur ingénieur du son se souvient. Avec le recul, je me dis qu'une des raisons pour lesquelles j'ai pu mettre au point tant de sonorités nouvelles sur Revolver, c'est la grande quantité de temps que George Martin passa en studio à travailler des harmonies vocales complexes avec John, Paul et George. C'était un long processus, mais le résultat était toujours spectaculaire. Ils se réunissaient tous les quatre autour du piano pendant des heures et des heures, répétant sans cesse leurs parties respectives. On voit dans cette citation une grande attention aux voix qui se retrouve dans toutes les productions de George Martin. En 1982, lorsqu'il retrouve Paul McCartney pour l'album Tug of War, la qualité du son Martin est à son apogée, de même que le soin dans le mixage des voix. Surtout, George Martin montre la souplesse de ce métier de directeur artistique qu'il a en fait contribué à inventer. Et il s'adapte à merveille aux idées de McCartney, qui à cette époque écrit des chansons plutôt complexes, dans lesquelles plusieurs ambiances, plusieurs rythmes, voire plusieurs styles différents succèdent rapidement. Dans celle que nous allons écouter, on n'entend quasiment pas les transitions entre les différents moments. C'est d'ailleurs ce qui montre à quel point c'est bien fait. Depuis le bruit initial, la première partie dans laquelle contrastent la voix presque à nu et les grands accords de guitare, la suite en marche plus pop, le swing lent qui suit avec ses chœurs en close miking, c'est-à-dire enregistré très près, jusqu'à l'exultation finale qui précède la reprise variée du début et la fin calme, miroir du début.
Sinking, pesos falling, the lira's reeling, feeling quite appalling. The mark is holding, franc is fading.
Paul McCartney en 1982 dans The Pound is Sinking, une chanson donc Philippe Cathé qui témoigne de l'art quoi, d'arrangeur, de directeur artistique,
oui,
qui était
ça.
Celui de George Martin.
C'est à la fois une manière de se mettre au service des autres et en même temps une manière d'apporter une couleur. Et c'est quelque chose qu'on voit tout le temps dans son travail, qui est un travail mal connu finalement de la plupart des gens qui ont l'habitude que le studio soit juste l'endroit où le musicien joue et où on fait qu'enregistrer. Mais en fait non, le studio est un véritable instrument à lui tout seul. Et dans la carrière des Beatles, parce qu'il faut bien revenir, on peut mesurer à quel point la vie de George Martin était primordiale, non seulement pour tout ce qui touchait aux questions musicales, mais même directement compositionnelles. Geoff Emerick, par exemple, écrit « La politique de George Martin en matière de simple, c'est-à-dire de ce qu'on appelait 45 tours à l'époque, des Beatles, était très stricte. Ce devait être des chansons entièrement nouvelles et non des extraits d'albums déjà publiés. Ce qui était louable dans la mesure où cela en donnait largement pour son argent au public, mais augmentait aussi grandement la pression que subissait le groupe. Quelques semaines après le début des séances de Revolver, George Martin reçut un mémo des huiles de EMI lui rappelant qu'un nouveau simple des Beatles était attendu. John et Paul furent immédiatement mis au travail. Celui qui pondrait la meilleure chanson, George Martin servant d'arbitre, remporterait la palme, la prestigieuse face A. » Alors bon, il faudrait évidemment pour nos plus jeunes auditeurs redire ce qu'était une face A, une face B sur ces disques qu'il y en avait deux et qu'il fallait retourner.
En tout cas, j'aime bien vous dites simple, si j'entends tout le temps sur les antennes single. Moi, traduisons, le français c'est une langue, on peut tout dire.
Et voilà, et donc dans cette musique maintenant dématérialisée, à l'époque on posait le disque et on écoutait d'abord la face A. En fait, cette politique a été un peu assouplie avec le temps, mais elle a été globalement suivie. Et surtout, la qualité de l'ensemble des chansons des Beatles a été telle que l'on peut continuer cette évocation de George Martin en choisissant uniquement des chansons qui ont été reléguées en face B. Je voudrais parler maintenant du dernier projet musical de George Martin. Il avait coutume de dire que l'on choisit son premier disque, mais que l'on choisit rarement le dernier. Lui, sentant les atteintes de la surdité s'amplifier, a voulu décider de ce que serait ce dernier album, un hommage à ses héros et amis, comme il le dit lui-même. Il a choisi des chansons des Beatles et demandé à ses amis ou aux artistes dont il était proche de les interpréter dans des arrangements revus pour la circonstance. Le premier à qui il en a parlé était Phil Collins, tout enthousiaste à l'idée de reprendre des chansons de Abbey Road et qui en aurait refait toute la deuxième face si on l'avait laissé faire. Dans cet album, George Martin renoue même avec l'enregistrement de la voix parlée qui avait fait la réputation de ses débuts lorsqu'il enregistrait sur disque des comédies et des dramatiques avec des acteurs aussi prestigieux que Peter Sellers, le plus régulier d'entre eux, mais aussi Peter Ustinov ou Sophia Loren. Dans une très originale réorchestration de In My Life, il demande à Sean Connery de dire le texte. Et enfin, on écoute peut-être vraiment l'émouvant poème de Lennon. Ici, c'est à un autre acteur qu'il propose de chanter « Come Together », Robin Williams. Il lui répond positivement, mais il lui dit « Est-ce que je pourrais pas le faire plutôt en duo avec un vrai chanteur ?»« Mais qui ?» Et Robin Williams dit « Bobby McFerrin ». Alors George Martin accepte, évidemment, et il arrange la chanson à sa manière, avec un gros son, une batterie puissante, une guitare saturée, mais propre, et des cordes impeccables, laissant le duo Williams-McFerrin commencer seul.
Here come on flat top, he come grooving up slowly. He got juju eyeball, he wants holy roller. He got hair down to his knee. Got to be a joker, he just do what he please.
Étonnant et magnifique cette version de Come Together, hein, mon cher Philippe Cattet. Donc Robin Williams et Bobby McFerrin revus, si on peut dire, par George Martin dont vous nous parlez. Je me demande d'ailleurs, c'était quoi sa formation de musicale?
Ah, c'est une formation classique.
C'est un classique.
Écriture, ça. Au bois, dans les...
Comme tous les grands arrangeurs, voilà. Et autres, sauf que c'est pas tout à fait un arrangeur, voilà.
Ça l'a été aussi, mais c'était surtout un producteur, finalement, qui c'est cet autre rôle. Et là, on l'entend, un son très très ample, en même temps moelleux et puissant. Alors, dans la suite, eh bien, on a aussi une recherche expressive dans le morceau suivant qui est « I am the walrus ». Martin reprend des éléments de l'arrangement arrangement original, il y mêle des réécritures qui accentuent encore la théâtralité de la chanson et il dirige Jim Carrey dans un numéro où l'acteur ajoute sa propre folie au texte psychédélique de John Lennon, un texte dans lequel se mêle, sans que l'on comprenne toujours pourquoi, un morse omniprésent, de la crème jaunâtre coulant de l'œil d'un chien mort, des fumeurs experts qui toussent, des cochons qui grognent, voire une prêtresse pornographique et de jolis policiers. Ah ! J'allais oublier une sardine à la semoule escaladant la tour Eiffel et un pingouin primaire chantant Hare Krishna. Gugu Gajoub.
Excellent Jim Carrey qui est un de nos héros à tous les deux, Philippe Catté,
oui,
voilà,
oui.
Dans cette chanson des Beatles revue par George Martin.
Une dernière anecdote à propos de George Martin, il avait installé un studio dans l'île de Montserrat dans les Antilles anglaises et là en 89 un ouragan a vraiment tout ravagé. Pour montrer l'humanité de la personne, jusqu'à son dernier souffle il a voulu collecter de l'argent pour cette île. Et comme il le racontait, sa première contribution lui a demandé 3 coups de fil. Il a appelé Paul McCartney, lui a dit « Est-ce que tu ferais un concert ?» Il a dit oui, etc. etc. Tout était arrangé aussi vite que ça. Voilà l'homme.
Merci Philippe Catté pour ce portrait de George Martin et on vous retrouve bientôt évidemment à ce micro.
Au revoir Benoît.
Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteurtre préparée par Pauline Boisaubert. Aujourd'hui à la technique, José Bernays avec Annick Champagne et Thibaut Gouffier. Réalisation Christine Amado et Swad Boukorsa. Et puis on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Je recevrai Mathieu Moulin, le talentueux responsable artistique du label Marianne Melody. Bon week-end à tous.